c'est depuis mon point de vue en tant que sociolinguiste que je vais m'exprimer. Je m'intéresse en priorité aux langues, vous allez le comprendre, et aux politiques linguistiques et aux politiques linguistiques éducatives, même si, évidemment, elles renvoient à des rapports de pouvoir, mais que j'étudie beaucoup moins, évidemment, puisque ce n'est pas ma spécialité. Alors, si on veut parler de la Guyane, on renvoie à un rapport nord-sud un peu particulier qui est le rapport de l'outre-mer avec sa métropole. Et vous avez ici une carte que j'avais trouvée sur le site du ministère de l'Outre-mer, où on voit bien la métropole continuant à rayonner dans ses outre-mer. Voilà. Donc la Guyane est actuellement une région, une collectivité d'outre-mer. C'est une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Elle fait partie des 9 RUP. Elle est administrée comme une région française. La référence à Paris comme point de référence est présente, que ce soit dans les insignes de la nation avec le drapeau, comme là pour les routes. Alors le contexte, je vais vous présenter très très rapidement un petit contexte guyanais, hein, au niveau démographique, sur une population jeune, dont la moitié de la population est née en dehors de la Guyane, et où un tiers de la population n'a pas la nationalité française, avec une immigration importante venant de différents pays, en particulier le Suriname, Haïti, le Brésil, etc. Alors la façon d'appréhender la population en Guyane, à la fois dans l'imaginaire collectif et dans les travaux de recherche sur la Guyane, est constituée par des communautés, une mosaïque humaine de communautés linguistiques et culturelles. Donc vous avez les plus importantes, créoles, amérindiennes, bushinanguées, et puis donc qui constitue le ciment dans l'imaginaire de la communauté, de la Guyane, et puis d'autres communautés de différentes nationalités. Donc il y a les métropolitains d'un côté, et puis de l'autre des groupes chinois, hmongs, haïtiens, brésiliens, surinamais, etc. Cette mosaïque se donne à voir sur les sites, sur les différents sites institutionnels. Et donc là, la dernière image que je viens de vous montrer était sur le site de l'Académie de Guyane jusqu'à dernièrement. Elle n'y est plus. Vous voyez, avec par exemple ici, vous avez le drapeau brésilien pour bien figurer un certain nombre de caractéristiques, physiques et ethniques, pour aller vite, les communautés. Alors, le système éducatif, c'est un système d'éducation nationale qui a longtemps été sans aucune adaptation au contexte linguistique et culturel. Le résultat en est le plus fort taux d'échec scolaire en France. Longtemps, maintenant, c'est Mayotte, mais c'est juste après, c'est la Guyane. Avec des revendications locales, en particulier créoles et amérindiennes, pour améliorer le système scolaire, et avec la question de la langue qui était l'une des premières revendications depuis les années 80. Ça fait plus de 40 ans que des anthropologues et des linguistes écrivent contre des écoles non adaptées. Et depuis les années 90, la priorité de mes collègues linguistes qui sont venus en Guyane a été de décrire un certain nombre de langues pour les faire entrer à l'école. Alors pour ça, ils se sont focalisés sur des langues maternelles. Le postulat, c'était que les enseignants et les enfants ne partageaient pas les mêmes langues. Du coup, pour pouvoir... c'était que d'un côté... Les enseignants qui, à l'époque, étaient essentiellement métropolitains, ce qui est moins le cas actuellement, étaient confrontés de l'autre côté, et donc ils ne connaissaient pas la situation locale, étaient confrontés, ni les langues, étaient confrontés à des élèves qui étaient non francophones. D'où un certain nombre de travaux pour essayer, enfin de travaux et d'efforts pour essayer d'introduire les langues maternelles locales dans le système éducatif. Par ailleurs, il y avait un souci de formation des élites locales pour arriver à les faire émerger. Avec des attitudes qui étaient vues comme à combattre, qui étaient de la part des enseignants et des familles, qui étaient que les langues maternelles étaient vues comme une barrière pour aller vers le français. Les travaux de recherche ont permis la description de ces langues et la rédaction d'un certain nombre d'ouvrages donc pour grammatiser les langues. Ce qu'on appelle grammatiser les langues, c'est produire une écriture, produire des grammaires, des dictionnaires, etc. Et donc, les travaux se sont concentrés sur 10 langues en Guyane. À côté de ça, il y a eu pas mal de mouvements sociaux, enfin en tout cas là, de grèves par rapport à la situation scolaire en Guyane, y compris des images caricaturales, humoristiques, hein, qui rappellent le passé colonial de l'école dans ces territoires. Alors, si je m'intéresse maintenant rapidement pour vous montrer un peu, en fait, on a une variété de contextes scolaires en Guyane, dans différentes parties du territoire, qui renvoient tous à des histoires différentes face à la scolarisation. D'un côté, on a... Et qui renvoie donc à des histoires différentes face à la scolarisation. D'un côté, on a pour certaines familles très peu de passé scolaire familial, puisque certaines écoles ont commencé à être créées dans l'intérieur de la Guyane à partir des années 70, jusque très récemment, dans les années 90 et 2000, sur les fleuves. Et que de l'autre, on a sur le littoral des familles qui sont scolarisées depuis plusieurs générations. Et ça, ça pose, donc non seulement il y a des histoires différentes face à la scolarisation, mais par ailleurs, ça pose aussi la question du sens de l'école, puisque l'école et le français, c'est quelque chose d'absolument clé pour avoir un accès aux emplois tertiaires. Mais de l'autre côté, étant donné que le chômage est important et que l'emploi informel est important également, du coup, l'importance de l'école et de la clé pour travailler n'est pas évidente pour une grande partie de la population. Je fais vite. Alors, le contexte sociolinguistique global, c'est une quarantaine de langues qui sont parlées quotidiennement par les élèves en Guyane. Donc ça, ce sont mes travaux donc durant ces 20 dernières années dans les écoles qui ont permis de montrer ce multilinguisme important. Et une vingtaine de ces langues sont parlées par des proportions de la population qui représentent entre 1 et 30% de la population, soit comme langue première, de première socialisation, terme que je préfère au terme de langue maternelle, et puis donc soit comme langue de première socialisation, soit comme langue véhiculaire. Donc vous avez là les grands types de langues qui appartiennent à 9 familles linguistiques. Ça, c'est pour la vingtaine de langues dont je viens de vous parler. Donc on a en fait différentes configurations sur le territoire en termes de multilinguisme, c'est-à-dire de coexistence des mêmes langues sur les mêmes espaces. Et donc les différentes couleurs représentent des langues différentes. Vous avez ici les résultats donc sur la région autour de Cayenne. Et donc, partout sur le territoire, on a des configurations différentes. Donc, vous voyez, le français est en rose. Vous voyez le poids très relatif du français comme langue de première socialisation. Par ailleurs, ces mécanismes, enfin ces rapports entre les langues, sont aussi à regarder du côté, du côté des langues dominantes, mais des langues qui ont un poids numérique plus ou moins important en fonction des différentes régions. Voilà. Alors, ce qui fait que dans les classes, en fait, on a des classes qui sont multilingues. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de langues qui sont présentes. Vous avez là, dans une classe à Kourou, une classe où on a 13 langues de première socialisation en coprésence dans la classe. Par ailleurs, les élèves sont plurilingues, au sens où c'est pas parce qu'ils ont 13 langues de première socialisation, mais en fait, si on s'intéresse à l'ensemble de leur répertoire linguistique, c'est-à-dire l'ensemble des langues qu'ils connaissent, on arrive à 20 langues qui sont mobilisables au sein de leur répertoire. Donc, comme image des élèves, en fait, on a des élèves qui sont plurilingues, qui sont pour la plupart non francophones avant d'aller à l'école. Et donc, à l'âge de 10 ans, bah, ils parlent 2, 3, en général 3, parfois 4 ou plus langues. Donc, très jeunes, ils ont des répertoires plurilingues qui ne font que s'accroître par la suite, en général. Et donc, ils ont par ailleurs une expérience intime de l'habileté à passer d'une langue à l'autre. Ils ont une compétence plurielle à communiquer. Donc ça, c'était un petit aperçu, disons, du contexte, très rapide. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe, comment ça s'articule avec la politique linguistique de la France, c'est-à-dire comment la France gère ce plurilinguisme. Alors, le contexte de la politique linguistique de la France, vous devez le connaître, c'est un pays qui se fantasme monolingue, avec comme idéologie une langue égale une identité égale une nation, alors que les enquêtes INSEE montrent par exemple qu'on a 400 langues de première socialisation en métropole, par exemple, mais on continue à fantasmer ce monolinguisme. Et la reconnaissance de la diversité linguistique demeure une question brûlante en France. J'en veux pour preuve les débats sur la ratification de la charte européenne des langues minoritaires, par exemple, les discussions sur la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution, etc. Alors, dernièrement, le ministère de la Culture a proposé une espèce de label, les langues de France. Et parmi ces langues de France, donc il y en a 75 qui sont langues de France, c'est-à-dire susceptibles d'être reconnues comme langues minoritaires dans la charte européenne qu'on n'a pas signée, mais enfin voilà. Et parmi ces 75 langues de France, plus de 50 proviennent des Outre-mer. Voilà. Donc, en termes de politique linguistique éducative, vous savez par ailleurs que l'enseignement en français, que l'enseignement se passe en français sur tout le territoire, en tout cas sur tous les territoires dans le premier degré, parce que la langue de la République est le français, comme vous le savez, dans l'article 2 de la Constitution. Alors, il existe trois dispositifs en France pour enseigner les autres langues, ou pour enseigner dans d'autres langues. On peut enseigner des langues vivantes étrangères, on peut enseigner des langues d'origine, dans le cadre des conventions bilatérales, les ELCO, etc. On peut enseigner les langues régionales, avec de différentes manières, que ce soit de la sensibilisation ou des classes bilingues à parité horaire à certains endroits. Et puis, depuis 2013, il y a la situation spécifique des langues d'origine dans les Outre-mer. En fait, en 2013, le code de l'éducation a été modifié pour pouvoir accueillir la spécificité des Outre-mer. Et vous voyez là, j'ai en rouge, au profit des élèves issus de milieux principalement créolophones ou amérindiens. Alors, je vous ai mis là, juste pour rappel, quelques jalons dans l'introduction des langues locales à l'école. Donc en Guyane, ça commence en 86 avec l'introduction du créole guyanais à l'école, quelques heures par semaine. Depuis 2008, pour le créole, on a un enseignement expérimental bilingue créole-français. Et puis depuis 1998, on a un programme qui a été mis en place par les collègues de mon laboratoire, de médiateurs culturels et bilingues, puis d'intervenants en langue maternelle, pour essayer de faire entrer les langues locales à l'école. pour pousser ce dispositif, c'est à l'Assemblée nationale, Chantal Berthelot qui a demandé l'ouverture de classes bilingues pour ces langues locales en 2016 et qui a obtenu la réponse de la ministre pour ouvrir des classes bilingues à parité horaire pour les langues amérindiennes et bushinengues. Ça faisait partie des revendications de mars 2017. Vous savez qu'il y a un peu plus d'un an, en Guyane, il y a eu des mouvements sociaux. Et la question de l'enseignement dans les langues locales a été à nouveau réactivée de manière très forte. Ce qui a abouti en septembre 2017 à la création de la première classe bilingue entre le Kalinya, une langue amérindienne, et le français en CP, à parité horaire. Alors, ça avance un petit peu, ça recule, ça avance un petit peu, ça recule depuis plus de 20 ans. Actuellement, il y a une pétition pour l'enseignement des langues maternelles à l'école qui circule parce que ça ne va pas aussi vite que ce qui était demandé. Lors des accords de Cayenne, il a été demandé l'ouverture de 400 classes bilingues, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Donc ça, c'était rapidement les éléments de politique linguistique générale. Quelle gestion des langues au quotidien voit-on en Guyane ? Donc, il y a eu une évolution des politiques linguistiques éducatives ces 40 dernières années, c'est évident. Maintenant, la question que je vais poser, c'est comment l'offre de formation trie les élèves ? Alors, on a en fait actuellement trois types de dispositifs, dont deux peuvent s'appuyer sur les langues des élèves natifs. Et là, on va voir appliquer la grille de lecture ethniciste dont je vous ai parlé au départ sur le fait de voir des communautés. Alors, d'un côté, on a un enseignement bilingue à parité horaire qui est possible pour le créole guyanais. Donc pour le créole guyanais, on a soit 3 heures par semaine, comme langue régionale, soit des classes bilingues, français-créole à parité horaire, avec la possibilité d'avoir une option au bac. Donc, un enseignement de continuité bilingue entre deux langues, qui peut aller, qui commence à l'école et qui continue. Pour les langues, donc les autres langues, entre guillemets maternelles, pour les autres langues locales, il est proposé un bilinguisme de transition. C'est-à-dire, on a un dispositif qui commence à l'école maternelle, qui était à titre expérimental, qui est de 3 heures par semaine, où les enfants sont accueillis dans leur langue. Et puis, progressivement, l'objectif, c'est de passer au tout français. Et puis, pour les autres langues qui sont présentes en Guyane, et il y en a beaucoup, puisque je vous ai dit que 50% de la population n'était pas née en Guyane, eh bien, on a des dispositifs compensatoires, ce qu'on appelle les UPE2A, c'est-à-dire les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, même s'ils ne sont pas arrivants. En fait, là, l'objectif est clair, c'est un objectif d'assimilation puisque les élèves doivent apprendre le français. Donc, si je veux résumer ça rapidement, vous avez là l'ensemble des répertoires linguistiques déclarés par tous les enfants que j'ai rencontrés durant mes travaux. Donc, vous avez des déclarations sur les langues qui sont parlées en langue de première socialisation, qui sont en bleu, et puis les autres langues, les mêmes langues qui sont dans les répertoires. C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde pour le français, par exemple, on a un peu plus de 30-35% des enfants qui ont parlé le français en famille quand ils étaient petits. Et puis, bah, évidemment, comme ils sont tous scolarisés à l'école en français, tous ont le français dans leur répertoire. Voilà. Donc vous avez en haut du tableau les langues de Guyane, c'est-à-dire les langues qui sont reconnues par le ministère de la Culture comme des langues de France. Et puis vous avez en bas des langues qui sont issues de mobilités plus récentes, avec des chiffres non négligeables hein, pour un certain nombre de ces langues. Alors, qu'est-ce qui est proposé pour ces langues? Donc, en ce qui concerne le créole guyanais, qui est déclaré comme pratiqué au sein de la famille par moins de 10%, par 5% de la population, mais qui est, par la population scolarisée, je le répète, mais qui est présent dans environ une trentaine de pourcents des répertoires, on a actuellement des classes bilingues à parité horaire. Pour toutes les autres langues locales, reconnues comme qui ont le label langue de France ou langue de Guyane, ce qui est proposé, c'est un bilinguisme de transition, un petit peu la langue quand ils sont petits, puis rapidement vers le français. Et puis, toutes les langues qui sont en bas, rien. Voilà, c'est-à-dire du français. Donc, par exemple, là, si je regarde les dispositifs compensatoires pour les migrants, par exemple, l'objectif, c'est la maîtrise du français. Hein, c'est favoriser l'intégration linguistique des élèves, enseigner le français. Aucune référence au plurilinguisme ou à la prise en compte des langues des élèves dans ce type de dispositif. Alors, si je regarde dans les programmes bilingues, est-ce qu'on prend en compte le plurilinguisme des élèves? Mais en fait, on a fait un certain nombre de travaux, d'observations dans les classes, etc. Donc là, je n'ai pas du tout présenté tout le travail ethnographique, tout le travail d'analyse des interactions qu'on fait en classe, juste pour vous présenter quelques résultats. En fait, la constante, c'est que le plurilinguisme des élèves n'est pas pris en compte. Hein, ce n'est pas considéré comme une ressource pour apprendre ou pour enseigner. Et en fait, le principe de la séparation des langues, c'est le principe organisateur de tous les dispositifs qui sont mis en place. Et donc, un collègue a pu dire que dans beaucoup de programmes bilingues, en fait, les deux langues constituent deux solitudes, comme dans ce dessin où, en fait, dans le cerveau, un enfant a représenté deux langues dans le cerveau comme deux zones séparées. Donc, en résumé, sur la situation sociolinguistique en Guyane, on a une quarantaine de langues qui sont parlées, qui sont mélangées par les enfants, plurilingues en Guyane, au quotidien. On en a 10 qui ont été introduites à l'école, mais pas de manière équivalente, ce qui introduit ou ce qui renforce un certain nombre d'inégalités. On a une focalisation sur les langues maternelles, sur le natif, sur l'origine. En fait, les dispositifs actuels trient les élèves en fonction de leur langue maternelle supposée. C'est-à-dire, donc dans une classe où on a un certain nombre d'enfants parlant différentes langues, pour certains, on va leur proposer d'aller avec tel enseignant pour apprendre leur langue, ou la langue de leurs ancêtres. Mais pour les autres qui, par ailleurs, quand dans la cour de récréation, ont commencé à apprendre des rudiments de cette langue-là, il n'est absolument rien proposé. C'est-à-dire qu'il y a un tri. Voilà. Et par ailleurs, les programmes ne s'intéressent pas du tout à la compétence plurilingue des élèves, qui se développe en marge. On a une véritable hétérogénéité des classes, mais on a une forme de gommage, d'invisibilisation de cette hétérogénéité. Donc ça renforce des hiérarchisations sociales qui sont déjà là. Alors il y a toute une échelle d'imbrication de hiérarchisation que je ne peux pas développer, mais en fait on a une hiérarchisation des langues avec des discours ostracisants ou des insultes par rapport aux langues de certains enfants, par exemple. Par exemple, il y a un jeu de mots sur haïtien qui est haïtien. Hein, voilà. Donc, qui sont migrants. Il y a une hiérarchisation sociale aussi qui est liée à la langue, avec le français, par exemple, qui joue le rôle de gatekeeper par rapport à l'accès au marché de l'emploi, de manière très claire. Enfin, au marché de l'emploi tertiaire. Et ça repose finalement sur la question de savoir qui est de l'intérieur ou qui est de l'extérieur. C'est-à-dire qui est considéré comme guyanais ou qui est considéré comme français. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple là-dessus sur sur qui est considéré comme guyanais, donc dans le socle de représentation, de qui est guyanais, on parle souvent de cette, de la tripartite dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est créole, amérindien, marron, bushinengue, qui se donne à voir aussi sur des sculptures. Alors je vais maintenant vous parler très rapidement des marrons. Donc des marrons dont on a dans l'imaginaire un certain nombre de représentations, hein, qui ont marronné, qui ont fui l'esclavage, qui se donnent à voir dans l'artisanat, qui se donnent à voir aussi dans le carnaval, hein, avec des réappropriations des nègres marrons, des noirs marrons. Et puis dans des publications scientifiques. Alors, je vais vous montrer en préparant cette communication, je suis allée sur le site du ministère de l'Outre-mer pour regarder, c'est toujours intéressant de voir les dernières publications sur la Guyane. Sur la population, donc le premier paragraphe, c'est le territoire contre 260 000 habitants répartis sur 22 communes. Différentes tribus peuplent la Guyane. Les Kalinia, Teko et Wayana sont les principales, mais il y a aussi les Arawak, Palikour et Wayampi. Donc là, on a une référence aux groupes amérindiens qui sont nommés des tribus. Et puis c'est tout. Après, on parle de la collectivité. Après, on parle des fleuves. Et enfin, la biodiversité. Donc ça, c'est sur la géographie et la population. Si je regarde ce qui est dit sur la vie culturelle, hein, alors on fait l'éloge de Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, de Félix Éboué, etc., des sportives. La vie culturelle, c'est le carnaval. Et enfin, on a un paragraphe sur les langues. Où on a des pourcentages qui parlent le créole, le français, le portugais, l'hindoustani, le chinois. Enfin, on a les langues indiennes, 4%, dont on nous dit finalement que bon, y a juste le kalinya qui risque de rester. Et absolument rien. Donc là, je vous redonne les répertoires linguistiques des enfants. Absolument rien sur les marrons, par exemple. Il n'y a pas un mot, ni sur leur langue, ni sur les groupes. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça renvoie en fait à savoir qui est de l'intérieur et qui est de l'extérieur, sur les mécanismes d'inclusion et d'exclusion. On a en fait là, sur le site, comme construction de l'altérité, soit éventuellement la folklorisation, la construction de l'altérité pour les tribus amérindiennes, et puis un gommage ou une invisibilisation pour les marrons, par exemple. Voilà. Bon, et donc c'était juste un petit point. Ce que j'ai essayé de montrer, j'ai terminé, c'est que ces hiérarchisations, elles sont rejouées, bien évidemment, par l'offre de formation scolaire qui est proposée au niveau linguistique, avec invisibilisation d'un certain nombre de groupes et d'un certain nombre de langues, invisibilisation d'une part du plurilinguisme et d'autre part d'un certain nombre de langues des élèves. Voilà, j'en ai terminé.